souhaite devenir interprète dans une organisation internationale. Et sur ses réseaux, elle continue à sa façon cet apprentissage en piochant, en testant, en sélectionnant ce contenu spécial éloquence.
Il y a un conseil qui m'a beaucoup marqué et qui est complètement applicable dans n'importe quelle langue. Donc en fait, c'est par exemple le fait de remplacer « désolé pour mon retard » par « merci de m'avoir attendu ». Donc en fait, c'est une façon qui peut être vraiment appliquée dans n'importe quelle langue et tu te concentres en fait sur l'aspect positif, tu vois. Tu t'excuses pas, t'es un peu plus assertif. C'est un mot aussi qui vient de faire son entrée dans le dictionnaire. Je sais pas si t'avais vu.
Par exemple, ils avaient du mal à s'entendre tellement la musique était forte. Ils avaient du mal à s'entendre tant la musique était forte. Si vous souhaitez gagner en élégance en français ou dans n'importe quelle langue, à l'écrit ou à l'oral, rien ne remplace un bon tuteur qui a les bons outils et la bonne méthode.
Mariam n'est pas la seule à être séduite par cette tendance. Le hashtag self-growth totalisait 29 milliards de vues sur TikTok en 2024. Tout un vocabulaire circule, présence, posture, assertivité, des mots et des attitudes venus du coaching anglo-saxon, traduits, adaptés, repris par des créatrices qui se filment depuis leur salon ou depuis un hôtel à Paris. Des codes que Mariam pourrait un jour appliquer devant une assemblée à Genève ou à New York, là où elle rêve de travailler. Mais plus elle regarde, plus elle apprend à faire le tri dans tous ses contenus.
En fait, il y a des contenus que je zappe très vite, surtout quand ça devient trop moralisateur ou trop hautain. Parfois, certaines personnes parlent d'élégance, de charisme avec beaucoup de jugement, comme s'il existait une seule bonne manière d'être. Et je trouve que ça enlève justement toute élégance du message. Et ce que j'aime dans ce genre de contenu, en fait, tu vois, que moi j'apprécie, c'est quand ils donnent des outils et des pistes de réflexion, et pas quand ils cherchent à rabaisser les autres ou créer une forme de supériorité sociale. Donc dès que je sens un peu ce ton-là, je passe en fait à autre chose.
Veuillez cultiver votre absence collective, je vous prie. Je suis en week-end.
Mariam me partage aussi les vidéos d'une humoriste française qui parodie justement ces codes d'élégance poussés à l'absurde.
Anne-Marie de Saint-Chibre vous souhaite un bon week-end ou, comme je le dis plus tôt, une excellente trêve hebdomadaire.
Entre les leçons et leurs parodies, elle se réserve le dernier mot. Y'a quoi sur tes réseaux revient la semaine prochaine. En attendant, retrouvez cet épisode et tous les autres sur le site de RFI. À bientôt.
À bientôt, Anna Le Serre pour Y'a quoi sur tes réseaux. La mode pour s'émanciper et pour mettre en valeur sa culture. La fin d'Afrique matin au Quai Branly à Paris, où se tient en ce moment l'exposition Africa Fashion. On y rencontre Alfadi, le magicien du désert, figure majeure de la mode africaine. La culture et la mode peuvent aller plus loin que l'uranium du Niger. Voilà ce que dit celui qui est aussi ambassadeur de l'UNESCO pour la paix, l'innovation et la création. Maria Afonso l'a rencontré.
Ce musée accueille l'Afrique aujourd'hui. Tous ces étudiants viennent pour visiter l'Afrique, aimer l'Afrique, montrer que l'Afrique est capable. L'Afrique a besoin d'être comprise, d'être aimée pour que cette mode puisse amener l'Afrique très loin.
Alfadi, créateur de mode.
Les Africains doivent porter africain, l'Européen doit porter africain, l'Américain doit porter africain. Donc il faut que ça change dans le bonheur, dans l'amour. Aussi les Africains doivent s'entendre. Ces guerres, ces coups d'État, on doit absolument diminuer ça. J'avoue que pour moi la paix, la beauté, l'amour peut nous amener très loin.
Alfadi, c'est avant tout un parcours exceptionnel. Né au Niger, il débute dans les années 80 et démontre très vite que l'Afrique possède un patrimoine textile d'une richesse unique. Depuis plus de 4 décennies, il réinvente les vêtements traditionnels africains en leur apportant une touche contemporaine, modernisant coupe et silhouette, tout en respectant l'âme du patrimoine. Depuis 1998, Alfadi organise le Festival international de la mode africaine, le FIMA. Cet événement célèbre la diversité et le talent du continent à l'échelle mondiale.
On a fêté les 20 ans au Maroc, on a fêté tout le FIMA, Yves Saint-Laurent, Kenzo en personne, Christian Lacroix. Il n'y a pas un créateur français, américain qui n'est pas venu à ce festival pour rendre hommage à la mode africaine, parce que ce sont des amis. Paco Rabanne m'a dit, si tu ne le fais pas, je vais le faire à ta place. Parce qu'il a compris réellement que l'Afrique était à la mode. Cette année, on va fêter les 28 ans de ce festival. Le combat du FIMA, c'est aussi montrer le textile comme produit essentiel. Au musée du Quai Branly, aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est un honneur pour l'Afrique. Ils nous ont rendu hommage.
L'exposition Africa Fashion, conçue par le Victoria et Albert Museum, est au musée du Quai Branly à Paris. Le musée dévoile textiles, bijoux et photographies rares pour un riche dialogue entre passé et présent et certaines créations d'Alfadi en font partie.
Tout le monde est là. Les Africains viennent visiter, voir qu'ils ont un patrimoine. Ils ont des créateurs, que l'Afrique est capable. Et l'Afrique, elle est belle. Et l'Afrique est à la mode. On doit le faire dans d'autres musées français. On doit aller à Lyon, à Marseille, même dans des pays africains. Et il y a des grands musées à Abidjan ou au Niger ou ailleurs. On doit montrer l'exposition pour que ce savoir-faire puisse être reconnu et être aimé des Africains eux-mêmes.
Retrouvez tout l'univers d'Alphadi en podcast sur RFI.fr, chronique 100% création, sur RFI Pure Radio et en images sur les réseaux sociaux.
Maria Afonso, comme tous les dimanches, pour 100% création. Bientôt 6h à Assar, au Tchad. Waldo nous salue ce matin sur YouTube. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans 5 minutes, le début des RFI Matin avec Clotilde Dumais. D'ici là, deux légendes pour nous accompagner, Angélique Kidjo et Niles Rogers. Ils s'associent à la voix rauque de la chanteuse brésilienne Isa dans ce titre Oyaya. Angélique Kidjo, Niles Rogers et Isa, ça réveille, ça fait du bien et c'est en playlist ce mois-ci sur RFI. Et c'est ainsi que se referme cette demi-heure d'actualité, préparée et réalisée avec Laurent Hérault et Nemo en Peace. Très bon réveil à tous, RFI Matin dans une minute.
Dans le club RFI avec Eric Amien.
Cette semaine, nous partons à Kigoma en Tanzanie. Là-bas, le club RFI de la ville transforme les écrans en salle de classe. Les jeunes apprennent le français en regardant des films, des dessins animés pour découvrir de nouveaux mots et comprendre la langue en s'amusant. Une méthode dynamique, vivante et moderne où apprendre devient un plaisir.
Le club RFI avec Eric Amien, tout à l'heure à partir de 21h10 TU sur RFI.
Alors peut-être la Sadio Mané, la frappe et le but! Le but de Sadio Mané!
Le doublé de Mbappé, incroyable!
Messi, c'est là!
Vinicius Junior!
Oh! Il est 7h.
Il est 7h.
Il faut se creuser la tête pour sauver la planète.
Okay.
Alors, troisième volet avec l'association Savès Climat, cette association qui crée des alternatives autour d'elle. On a vu donc l'association dans un premier temps avec Sophie, on a vu le groupement d'achat qui est en train de prendre son envol au-delà de l'association d'origine, et après se nourrir, un des besoins élémentaires est de s'abriter, d'avoir un toit sur la tête. Et on le sait, l'habitat est générateur de gaz à effet de serre. La construction actuelle n'est pas vraiment, même si les grandes boîtes essaient de nous vendre parfois du développement durable et du greenwashing, attire l'arigot. L'écohabitat, ce qu'on appelle cette dynamique d'écohabitat, de chantier participatif, est une solution pour faire les choses différemment, pour faire les choses en accord avec le changement nécessaire si on veut s'adapter, réduire et s'adapter au changement climatique. Pour en parler, je vous propose de rencontrer Julien. Bonjour Julien.
Bonjour Nicolas.
Alors toi, tu t'occupes donc spécifiquement de l'écohabitat à Savès Climat. Vous êtes parti de quoi ? Comment est née cette dynamique d'écohabitat ? Et on va voir quels sont ses projets, ce qu'elle fait.
Alors, on pourrait dire qu'elle est plutôt partie, la dynamique du groupe Zéro Déchet, finalement, parce que qui était un des groupes sur lesquels travaillait Savès Climat. Et c'est un copain du groupe Zéro Déchet qui, dans le cadre d'une reconversion professionnelle, a décidé de lancer une boîte qui travailler dans la collecte et le tri et la mise dans les différentes filières de tri des déchets de l'habitat, du bâtiment. Donc il a lancé cette activité.
C'est-à-dire qu'ici, en fait, tous les déchets partaient dans cette décharge à ciel ouvert qu'il y a près de chez vous, c'est ça ?
Oui, bah, les déchets, alors l'activité en l'occurrence était plus large que dans le Gers, hein, c'est-à-dire qu'elle se développait aussi un petit peu sur toute la région Occitanie, voire un petit peu de Nouvelle-Aquitaine. Mais effectivement, les déchets, quand ils ne sont pas triés sur chantier et qu'ils ne sont pas pris en charge de façon aujourd'hui légale d'ailleurs, hein, parce qu'il y a une obligation légale là-dessus, ils partent à la benne comme tout le reste. Ce qu'on appelle un DIB, techniquement. Donc il a monté cette boîte et en discutant en fait avec lui, et puis c'était son objectif aussi au début, on est parti dans l'idée de l'accompagner collectivement, de le rejoindre pour venir travailler à la création d'une plateforme de réemploi de matériaux de construction.
C'est-à-dire un endroit où les gens vont pouvoir les acheter.
C'est
quand ça. Tu parles de plateforme, c'est une sorte de boutique, quoi.
Ouais, c'est un magasin, on pourrait dire. C'est-à-dire un lieu où vont être collectés et revendus des matériaux du bâtiment qui sont des matériaux de deuxième main, comme sur une ressourcerie en fait, des matériaux de deuxième main mais spécialisés dans le bâtiment. Et donc ça, c'était l'idée, on y reviendra, je pense, c'était l'idée initiale sur laquelle on travaille. Et donc l'objectif initial, c'était de à partir de cette entreprise existante qui était une entreprise commerciale, de la transformer, une entreprise commerciale d'économie sociale déjà, mais de la transformer en coopérative. Et donc il y a maintenant un an et demi de ça, on a décidé, alors le projet a un peu changé, mais on a créé en fait une coopérative de toutes pièces qui en fait a repris le flambeau de cette activité-là qui était l'activité de création donc, de la plateforme. Donc cette coopérative, c'est une SIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle donc Coopérative Écohabitat et dont le projet aujourd'hui, un des projets principaux donc, est de monter cette plateforme de réemploi à Lombez, donc sur un terrain dans la zone artisanale où le terrain est acheté et le bâtiment va sortir du sol dans les semaines et les mois qui viennent.
Comment elle a trouvé les sous, la SIC, pour acheter par exemple le terrain ?
Alors, l'argent vient de plusieurs endroits, plusieurs sources. Il y a un emprunt initial qui a été fait par en fait l'entreprise dont je parlais tout à l'heure et qui, ayant de l'activité, a pu solliciter un emprunt auprès d'une banque coopérative, d'ailleurs le Crédit Coopératif. Et en plus de cet emprunt, on a sollicité des financements publics. On a participé à un budget participatif de la région Occitanie sur lequel on a obtenu 150 000 euros. On a également demandé et obtenu des fonds européens qui sont des fonds leaders sur lesquels on a obtenu 50 000 euros. Et donc voilà, donc on a la base et puis on a d'autres financements bancaires qui doivent arriver. Et puis on va lancer là, dans les semaines qui viennent, un appel à financement participatif pour venir financer notamment les derniers achats d'équipements pour la plateforme. Et donc ça va être notre activité d'ailleurs dans les mois qui viennent, puisque l'objectif c'est d'ouvrir la plateforme maintenant à la rentrée, à l'automne prochain.
Et le bâtiment, il est construit ?
Alors le bâtiment va être construit aussi.
Il va être éco-construit ?
Et il va être éco-construit. Il va être, c'est un bâtiment de réemploi, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on a acheté un bâtiment dans Lot-et-Garonne, exactement, qui était donc un bâtiment métallique assez classique, tel qu'on peut en voir un peu partout. Donc ce bâtiment a été démonté et il va être maintenant remonté avec, d'ailleurs, c'est intéressant de parler d'eux parce qu'ils font un boulot très intéressant, une boîte qui s'appelle Metamo, qui est à Auch, et qui, dont le métier est de travailler sur de la métallurgie de réemploi, c'est-à-dire des bâtiments métalliques et des méthodes de réemploi. C'est leur spécialité, donc c'est eux qui eh bien, ont récupéré le bâtiment et vont l'adapter en termes de structure, etc., de manière à pouvoir le remonter sur notre terrain.
Alors qu'est-ce qu'on va y trouver dans cette sorte de ressourcerie, recyclerie ?
Oui, on appelle ça aussi des matériothèques. Des fois, voilà, il y a plein de mots comme ça. Eh bien, on va y trouver un petit peu tout ce qu'on peut imaginer en termes de matériaux de réemploi. On pourra y trouver des fenêtres, on pourra y trouver des briques, on pourra y trouver notamment des briques de terre crue, on en parlera tout à l'heure. On pourra y trouver des plafonds, des radiateurs, peut-être des lavabos, des WC, des câbles, tout ce que vous pouvez imaginer qui rentre dans la construction, des outils aussi. On voudrait aussi développer tout un volet outils de réemploi, voire de location d'outils.
Outils de bricolage, hein, j'imagine.
De bricolage, oui, c'est ça.
Okay. Oui, qu'en général, beaucoup de gens achètent en grand nombre quand ils font la rénovation de leur maison et qui dorment ensuite pendant des années sans servir.
C'est ça, exactement. On en a tous chez nous, je crois.
La bonne idée est de l'acheter à plusieurs, parfois.
Bah oui, c'est ça.
Alors, c'est quelque chose que vous avez initié ? Vous êtes inspiré d'exemples qui sont déjà développés ailleurs ?
Alors, il y a des exemples ailleurs, mais ils sont assez rares encore aujourd'hui. Il y a notamment un à Toulouse, qui est un des plus anciens, peut-être même en France, qui s'appelle Recyclobat, qui est une association qui fonctionne depuis plus de 10 ans maintenant. Mais mis à part de ces quelques pionniers qui existent, en fait, c'est un secteur qui est en plein développement parce qu'il y a des obligations maintenant légales suite à notamment la loi AGEC, bon, peu importe, c'est un peu... Mais peu importe les détails, mais en tout cas ce qui est important c'est de comprendre aujourd'hui qu'il y a des obligations réglementaires qui obligent, sur des gros chantiers notamment, à ce que là où avant on détruisait un bâtiment, eh bien maintenant on le déconstruit, on va déposer les fenêtres de façon soignée, tous les matériaux pour pouvoir, dans l'objectif de pouvoir les réutiliser. Il y a un objectif en fait, une obligation de diagnostic avant le chantier, de voir, voilà, quelqu'un passe pour voir tout ce qui peut être réutilisé, etc. Donc tous ces matériaux qui sont sortis sur ces chantiers, il faut bien les mettre dans des endroits pour les revendre. Alors il y a des plateformes en ligne qui existent, etc. Mais il faut bien des lieux de stockage aussi et de revente, donc ils s'en développent un petit peu partout, dans tous les lieux, dans tous les départements. Nous, on serait les premiers dans le Gers. Et pour vous dire, en Occitanie, aujourd'hui, il y en a moins de 10, on peut même dire qui fonctionnent réellement, il y en a moins de 5 aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est en plein développement, et donc on va participer à ça avec une particularité qui est celle dont vous avez parlé en parlant de Savès Climat, c'est qu'on est sur un territoire rural et qu'il y a aujourd'hui très peu d'exemples en fait de ce type de structure en milieu rural.
Alors, ça a notre avantage, j'imagine, pour les entrepreneurs qui sont chargés de la démolition. Tu as parlé de contraintes et d'obligations, mais ça leur permet aussi de ne pas payer une déchetterie qui est parfois assez, assez coûteuse.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les déchets, enfin tout ce qui sort d'un chantier, finalement, sont un coût pour les artisans. Et donc nous, on offre une possibilité, ce qu'on appelle d'exutoire, c'est-à-dire dans un endroit où ils peuvent venir mettre chez nous ce qui est réutilisable, revendable, sachant qu'évidemment on n'est pas une déchetterie, on va pas tout prendre, on prendra ce qui est possible à revendre.
Et on le a dit, hein, le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Et le meilleur bilan carbone pour un produit, c'est celui qui est réutilisé plutôt que celui qui est fabriqué.
Oui, et d'ailleurs, là-dessus, même aujourd'hui, c'est pour ça que c'est une autre raison réglementaire. Hein, c'est-à-dire que dans les bilans carbone qui sont faits aujourd'hui sur le bâtiment, quand vous utilisez des matériaux de réemploi à l'intérieur, ça baisse beaucoup votre empreinte carbone. Donc c'est aussi une incitation qui fait que ces marchés-là se développent, quoi.
Oui, alors c'était ma question suivante. Qui va acheter ce genre de matériaux ? C'est ouvert aux artisans aussi ? Et alors, en particulier, on imagine qu'ils vont faire de l'éco-rénovation, qu'ils vont aller trouver une jolie porte pour mettre chez eux qui donnera du cachet à quelque chose de neuf. Mais c'est aussi de l'artisan ?
Oui, l'idée c'est vraiment de on pourrait même dire que c'est surtout des artisans, des professionnels de façon générale. L'idée c'est qu'on puisse avoir une offre qui permette de répondre des chantiers un petit peu de alors à grande échelle ou en tout cas à une échelle importante pour, alors les objectifs au niveau national, on pourrait discuter ce terme, sont de massifier le réemploi, donc voilà, il faudrait en discuter, mais l'idée c'est vraiment ça, c'est quand même que on puisse avoir des acteurs de la construction qui viennent chez nous, à qui on puisse fournir des équipements qui correspondent à ce dont ils ont besoin pour leurs différents chantiers, sachant qu'il y a des obligations dans les chantiers maintenant aussi. Vous devez mettre, pour certains chantiers publics notamment, un minimum de matériaux en réemploi. Donc on doit nous permettre de répondre à ce besoin-là. Et évidemment, les particuliers aussi pourront venir chez nous et voilà, et acheter tout ce qui leur sera nécessaire.
Cachaça de jambu, um pedaço do céu. Tô nesse carnaval, não me deixe ir. Mais uma colombina sem querer partir. Esse samba pra te encontrar. No seu cabelo tinha flor de maracujá. Ai, que água na boca você me dá. Já tô ficando louca de te esperar. Meu bem, vim nesse samba pra te encontrar. No seu cabelo tinha flor de maracujá. Ai, que água na boca você me dá. Já tô ficando louca de te esperar.
Alors nous sommes de retour avec Julien, donc, qui s'occupe de la coopérative Ecohabitat, donc née de cette association Savez Climat, donc, qui crée des alternatives sur son territoire. On a vu donc l'objectif est de créer une matériothèque. Elle a un nom d'ailleurs, on ne l'y a pas donné. Tu ne m'as pas dit comment elle s'appelait.
Oui, bien sûr, et c'est extrêmement important. Merci. Ça s'appelle Place des Matériaux. Okay. Voilà, ça sera le nom du magasin et de la structure dans laquelle on pourra trouver tous ces matériaux.
Alors on l'a vu, c'est une base dans l'écohabitat pour faire des constructions qui soient qui ne dégagent pas beaucoup de GES, pour avoir des chantiers qui respectent le climat, c'est-à-dire continuer à créer, à construire, mais dans le respect des choses. Le réemploi est essentiel. Ici, je vois, on est allé à la maison écologique avec l'ours et la carotte. Donc ce sont les maisons anciennes sont un vrai sujet. La rénovation, qui elle aussi n'est pas consommatrice d'espace, est une vraie solution, mais on se retrouve avec des bâtiments qui sont particuliers, qu'on ne peut pas gérer avec les matériaux classiques, ciment, placo-plâtre, isolation à tout crin. Ce sont des bâtiments qui s'appréhendent un petit peu différemment. Ici, dans votre zone, que je connais, je m'intéresse un peu à l'architecture, on voit beaucoup de maisons et qui sont faites avec le matériau local. Ici, sont des zones argileuses. Donc, et c'est votre sujet, c'est un autre sujet qu'aborde la coopérative, c'est la terre crue qui est employée, cette argile qui a été employée pour construire ces maisons. Et donc pour les rénover, il est important de faire avec.
Oui, c'est ça, de faire avec et de... Alors pour en dire un petit peu plus sur ce matériau, ici les maisons sont faites pour beaucoup en adobe de terre crue. Alors l'adobe c'est quoi ? C'est une brique qui est faite avec l'argile qui a été prélevée sur le terrain où la maison devait être construite. Souvent on faisait un trou et on sortait cette argile du sol, on la mélangeait des fois avec un peu de matière végétale pour mettre un peu de liant et on faisait sécher au soleil. Voilà. Et donc, ce qui fait que ce matériau, il est extrêmement intéressant parce que, alors écologiquement déjà, c'est un matériau qui est réutilisable à l'infini, puisque ces briques, quand vous les prenez, vous pouvez les casser, les concasser, récupérer de la terre, c'est-à-dire vous récupérez la terre telle qu'elle était initialement, et refaire à des briques si vous voulez, et ceci presque à l'infini. C'est un matériau évidemment...
Ce qui n'est pas le cas avec le ciment.
Ce qui n'est pas le cas avec le ciment. C'est un matériau évidemment qui est naturel, qui... qui ne demande pas de... vous voyez, l'adobe, donc ici, n'a pas demandé de cuisson, etc. N'a pas été consommatrice de gaz à effet de serre pour être cuite, etc. Qui a des qualités aussi extrêmement intéressantes en termes d'hygrométrie, en termes de qualité de l'habitat, de ressenti dans l'habitat, en termes de, d'isolation. Alors, Et évidemment aussi, notamment, et on le voit aujourd'hui dans les maisons du territoire, hein, c'est-à-dire sur les phases de les périodes de canicule, on voit que c'est des bâtiments qui ont une qualité. Alors c'est lié au déphasage en fait des murs, mais qui
à la masse, à l'épaisseur, oui, des murs. Hein.
C'est ça, qui fait que ce sont des maisons qui restent fraîches en période de canicule. Donc voilà, donc on a un très beau matériau en fait de construction ici, et beaucoup de maisons, voilà, jusque dans les années 50, en fait, tout le monde construisait en terre. Donc, partant de là, on a développé, nous, une activité, alors qu'on est les premiers à faire en France, qui est une activité de réemploi, en fait, de la terre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez, jusqu'à maintenant, en fait, un artisan qui va intervenir sur une maison, un professionnel du bâtiment, sur une maison en terre crue, s'il a à ouvrir un mur, par exemple, pour y mettre une fenêtre, ou faire tomber un mur intérieur, ou des choses comme ça, eh bien, tout simplement, la terre va être, ces adobes vont être balancés, en fait, ou alors, vu qu'elles se défont d'elles-mêmes, être balancées dans un champ à côté, ou alors mises le plus souvent à la benne avec le DIB dont je parlais tout à l'heure. Donc l'idée pour nous, c'est de dire que ces matériaux sont une richesse, qu'il y a eu du travail d'ailleurs qui a été accumulé à l'intérieur au moment où ça a été fait, que c'est un matériau qui est encore utile, dont on peut se servir et donc on peut récupérer. Et donc on a eu un financement l'an dernier par un éco-organisme qui finance aujourd'hui ces filières de réemploi, qui s'appelle éco-organisme, qui s'appelle Éco-Minéraux, et qui nous a financé une étude pour voir s'il était possible de développer une activité économique de réemploi de la terre crue, de ces matériaux de terre crue. Cette étude, on l'a réalisée sur toute l'année, elle aboutit positivement en disant que voilà, on peut venir intervenir sur ces maisons, déposer soigneusement ces adobes, les stocker, puis les revendre. On peut aussi les transformer, c'est-à-dire comme je disais tout à l'heure, quand on les sort, quand on les a cassés, parce qu'on casse beaucoup en sortant les adobes, c'est de l'adobe, c'est de la terre crue, une fois de plus, un matériau qui peut être un peu fragile quand on le manipule. Les murs en eux-mêmes ne sont pas fragiles, hein, que ça soit bien clair. Hein, c'est-à-dire, mais par contre, c'est des murs, voilà, on a des maisons qui ont 150, 200 ans et qui sont toujours là et en très bon état. Par contre, la brique, elle va être peut-être un peu cassable, cassante par moment. Et là, on peut refaire de la terre à partir de ça. Donc nous, on concasse cette terre, on la tamise et on vend des sacs de terre qui permettent ou de refaire des adobes, comme je vous disais, ou alors de faire des enduits. On peut faire aujourd'hui beaucoup de choses magnifiques en enduit, et donc on développe toute une activité là-dessus transformation et de revente en fait de la terre crue, ou sous forme d'adobe, ou sous forme de terre en vrac.
Alors c'est intéressant parce que tu parles d'enduit, mais j'ai envie de lancer du coup un appel personnel pour le patrimoine. C'est quand on rénove une maison qui est en terre crue, enfin une maison qui a été construite avant 1900 ou avant 1950, il faut faire très attention à ce qu'on emploie. Il ne faut pas enfermer les murs, parce qu'en général, dans ces cas-là, comme ce sont des matériaux qui laissent passer l'humidité et sur des bâtiments qui ont rarement des fondations, vous avez l'humidité qui remonte par les murs, qui se retrouve piégée, qui ne peut pas sortir, parce que d'un côté, elle a du ciment et de l'autre côté, elle a du placo. Et donc, ça fait des murs qui, par contre, deviennent de plus en plus fragiles. Et votre maison, elle est peut-être bien isolée, mais en fait, elle va s'effriter petit à petit et devenir fragile, et voir se casser. Il y a d'ailleurs un volet dans votre association, enfin dans la coopérative, de sensibilisation à ces matériaux et à la rénovation.
Oui, bien sûr, ça fait partie des activités qu'on commence à développer en communiquant un petit peu, mais qu'il va falloir qu'on développe. L'idée de notre lieu, en plus de cette plateforme de réemploi qu'on est en train de créer, on va créer un deuxième bâtiment, et dont on veut faire un pôle aussi d'éducation, de sensibilisation autour de l'éco-construction de façon générale, du réemploi, mais aussi autour de la terre, pour apprendre ce que je venais de dire, par exemple, qui est très très juste, qui permet aussi, un peu pragmatiquement, de créer des débouchés pour nos matériaux. matériau. C'est-à-dire que ce matériau, on y croit, la terre, on sait qu'il a d'énormes qualités, que le bâti ici doit être rénové effectivement avec ces matériaux-là. Et donc, il faut qu'on explique que pourquoi il faut effectivement rénover, faire ces enduits en terre et pas les faire en ciment ou mettre du placo sur ces bâtiments-là. Donc, c'est sensibiliser la population de façon générale, mais c'est aussi faire des formations pour les artisans qui n'ont pas été formés à ces matériaux-là. Il y a assez peu d'artisans en fait qui connaissent en fait la technicité autour de la terre. C'est pas beaucoup plus compliqué, hein. c'est pas plus compliqué d'ailleurs qu'autre chose. Le tout, c'est de savoir comment ça marche. Donc on va proposer on commence à le faire d'ailleurs. On a organisé des formations avec des architectes notamment. Donc proposer des formations autour de la terre, autour du réemploi, pour développer ces pratiques sur le territoire et pouvoir aussi l'objectif quand même de ce lieu, c'est de pouvoir, et c'est ça le lien avec Savès Climat aussi. Pourquoi s'emparer de cette question de l'habitat, c'est de pouvoir fournir un lieu sur le territoire qui permette de répondre aux enjeux des